Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui n'a pas eu peur de changer de continent, de pays, de ville pour vivre sa mission de vie. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nabila Bouhlel, bonjour.
Bonjour Yasmine, merci de votre accueil à toute l'équipe Midi 1 Radio.
Merci.
En fait, belle journée.
Merci beaucoup, merci infiniment et surtout merci d'être ma femme d'aujourd'hui, Lala Nabila. Alors, avec vous, on va aller à la découverte de cette jeune femme marocaine que vous êtes aujourd'hui, ce qui vous a façonné. Et ce qui a fait de vous que vous ayez plongé à un âge pas forcément très tôt, mais à travers le cours de la vie, dans le patrimoine et le terroir marocain, et principalement dans l'huile d'argan. C'est bien ça, Nabila ?
C'est tout à fait ça.
Ok. Alors, Nabila, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une marque, vous êtes à fond dans ce domaine-là, mais ça, ce n'est que depuis quelques temps. Avant, vous étiez dans quoi ?
Alors, moi, en fait, je suis à la tête d'une entreprise, une entreprise à mission, une entreprise engagée, en travaillant la main dans la main avec des coopératives, et on a créé notre marque qui porte plein de valeurs. Et à vrai dire, en fait, je suis dans ce domaine-là depuis 2015. Mais auparavant, j'avais un autre parcours. J'étais, pour tout vous dire, très très loin de tout cela. J'étais dans le domaine des finances en France.
Alors, de la finance à aujourd'hui, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle, la FIFARGAN.
Exactement.
Ok, est-ce qu'on peut avoir le cheminement ?
Alors,
qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ?
En 2015, en fait, j'ai décidé avec moi, ma famille, de venir m'installer au Maroc. J'étais à l'époque, pour tout vous dire, enceinte de 5 mois.
Premier bébé ?
Non, deuxième bébé.
Deuxième bébé, ok.
Donc, enceinte, avec des problématiques de santé. Et puis, surtout, j'avais une volonté de revenir à mes racines, d'être en phase avec mes convictions, avec mes valeurs humaines, que je ne retrouvais plus du tout en Europe ou plus précisément en France. Mmh. Et puis, comme je vous ai dit auparavant, des rencontres de vie qui ont fait que j'ai évolué dans ce domaine. Après, pour X raisons, donc moi, je vous raconte comme si je raconte à une amie.
Ben oui, c'est ça le but.
Parce que moi, en fait, j'ai envie de donner aussi un message d'espoir. Ah. Parce qu'il ne faut pas aussi dire que quand on... Il ne faut pas baisser les bras. Dans la vie, on peut faire des rencontres sympathiques, moins sympathiques comme j'ai dit, mais il faut toujours puiser un message et une leçon. Et donc à partir de là, donc quand je suis arrivée, j'ai fait des rencontres un peu moins sympathiques.
Au Maroc.
Et à partir de là, donc j'ai appris un métier, j'ai découvert des femmes.
Ok, mais il y a un truc qui m'échappe, Nabila. De la finance à l'huile d'argan. Pourquoi avez-vous choisi l'huile d'argan ?
Alors, pourquoi j'ai choisi l'huile d'argan ? C'est l'huile d'argan qui m'a choisie, à vrai dire. Mmh. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis mariée en 2004, et ne connaissant pas très bien le Maroc à l'époque, donc j'ai décidé de venir l'été, puisque je me suis mariée en août, et je suis venue à Marrakech.
Donc, gros problème. Alors, vous ne connaissez pas le Maroc ? Vous êtes originaire du Maroc ?
Bien sûr, oui, mais j'ai quitté très jeune le Maroc. J'ai quitté à mes 18 ans pour faire mes études. Donc, je connaissais que ma sphère, ma ville natale,
oui,
à vrai dire.
En
arrivant à Marrakech, donc gros problème de santé, de la chaleur en plein mois d'août, chose qui est tout à fait logique. Donc, on a cherché tout simplement à s'installer rapidement dans une ville côtière. Et donc, c'est là où on a découvert Essaouira. Et en faisant cette découverte-là, j'ai découvert aussi une ville qui est fief de l'argan. Mm. De l'art et du vivre ensemble. Et c'est ça qui m'a plu dans cette ville-là. Et d'année en année, avant même 2015, à chaque fois quand je venais en vacances, j'avais obligatoirement un stop sur
Essaouira.
Et donc forcément, dans Essaouira, on retrouve l'artisanat et surtout l'huile d'argan. Donc avant, je connaissais. Mais après, comme je vous ai dit, c'est en 2015 qu'on a décidé de tout laisser derrière nous, de repartir sur de nouvelles... moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une seule vie. Mmh. Il faut la croquer à plein dents et avoir plusieurs expériences. Mmh. Et donc, c'est là où on s'est décidé de gérer une entreprise à l'époque. C'est là, de fil en aiguille, on a constitué notre réseau, on a découvert des femmes et hommes, comme je vous ai dit avant, et surtout de tisser des liens forts avec des femmes rurales. Moi, j'ai des souvenirs de moi avec des personnes, mais c'est là où je me suis dit, bon, malgré les difficultés de la vie hein, qu'on peut retrouver dans différents parcours, je me suis... convaincu que c'était le bon choix d'évoluer dans ce domaine. Mmh. Donc, à partir de là, on a créé notre entreprise, notre marque qui s'appelle Pur Héritage Essaouira, qui porte aussi, qui fait honneur à notre ville. Et dès le début, on était sur l'exportation. De fil en aiguille, voilà, des rencontres, le fait qu'aussi qu'on est engagé envers la nature et envers les humains. Et quand on fait du bien et quand on travaille bien, moi j'estime que surtout dans des petites villes, il y a un écosystème qui est quand même assez, un réseau qui est bien développé et c'est ce qui m'a amenée à cette position-là de vice-présidente de la filière Argan.
Alors, exactement. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ces moments compliqués. Vous avez dit, il y a eu des rencontres qui n'étaient pas forcément faciles, qui n'étaient pas forcément évidentes, mais c'est un apprentissage de la vie. Et comme on dit souvent dans ce rendez-vous, et moi et les autres femmes d'aujourd'hui, c'est ceux à travers lesquels on apprend le plus. C'est les meilleures leçons de vie, celles qui sont les plus compliquées au moment, à l'instant même.
Exactement.
Yeah, vous êtes en d'accord?
Fait... C'est un condensé d'apprentissage dans la violence.
On se violente
soi-même, on sort de ses sentiers battus. Comment dire, c'est que le fait aussi d'être en stress, comment vous expliquez ça? C'est un stress qu'on subit à soi, mais c'est un stress qui est positif parce que ça va éveiller en nous notre instinct de survie, notre instinct de connecter les informations rapidement pour sortir d'une situation embarrassante. Donc, c'est tous nos sens d'éveil, ils sont en éveil. Donc, en effet, moi, je trouve que, oui, c'est dans la violence, mais c'est un apprentissage qui est condensé et qui, pour moi, c'est un apprentissage de vie qui vaut beaucoup plus que des études de X années.
Complètement. Alors, justement, ces moments, ces rencontres difficiles, ces moments difficiles, c'est ce qui peut faire donner envie à une personne, à quelqu'un, de laisser tomber, de repartir dans sa zone de confort. En l'occurrence, vous étiez en Europe, vous avez décidé de rentrer au Maroc, vous êtes allé vous installer dans une petite ville, vous lancer dans un business que vous ne connaissez pas forcément. Et forcément, dans les rencontres, il y a les bonnes et les moins bonnes. Et les moins bonnes, pour certains, eh bien, elles peuvent, comme on dit, excusez-moi le terme, les dégoûter.
Oui, après, ça dépend aussi de son caractère. Moi, je sais que dans mon caractère, pourtant, j'étais dans mon enfance une enfant très réservée. Mm. Et j'avais au fond de moi cette flamme de vouloir toujours m'en sortir. Et donc, quand je suis dans une situation un peu embarrassante ou compliquée, normalement, on a deux choix. C'est un choix binaire. C'est ou bien on fait face, ou on recule. Moi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui ont voulu... retrousser ses manches et d'y aller et de s'en sortir. Donc après, voilà, c'est un état aussi, comment on est façonné de par ses schémas d'enfance, de plein de choses. Enfin, c'est la psychologie rentre là-dedans aussi. Mais à vrai dire, que ce soit des bonnes rencontres ou des mauvaises, il faut savoir les savourer. Les deux,
absolument.
Exactement.
Et savourer ce qu'on en apprend. Alors, je vais vous poser aussi une question que notre communauté se pose probablement. C'est que vous avez décidé d'aller vous installer à Essaouira. Ce n'est pas votre ville natale. Voilà, c'est votre ville de cœur. Maman de deux petits-enfants. Alors, dans l'imaginaire des gens, ceux qui vont s'installer à Essaouira, c'est en quelque sorte les personnes qui n'ont plus d'obligations vis-à-vis de leurs enfants, souvent parce que les enfants sont partis, c'est des retraités, etc. Est-ce qu'on vous pose la question, justement ? Partir dans une petite ville avec des enfants qui auront besoin de scolarité, qui auront besoin d'activité, qui auront besoin de beaucoup de choses, est-ce que c'est un choix réfléchi ?
Bien sûr, c'est en fait, dans une petite ville aussi, il faut savoir qu'Essaouira, elle est, mine de rien, ok, de par sa surface, elle est petite, mais il y a beaucoup d'activités sportives, il y a beaucoup de choses où on peut évoluer avec des enfants en bas âge. C'est vrai qu'on pense que c'est une ville où il n'y a que des retraités, comme vous l'avez si bien expliqué, mais non, il y a quand même il y a une structure pour les enfants, il y a beaucoup de sports liés à la nature. Donc après, quand on est proche de la nature et qu'on aime bien évoluer dans un environnement où la nature, elle est partout, en fait. Vous faites quelques pas, il y a la mer, vous sortez un petit peu plus loin des Essaouira, à 5 km, vous avez des endroits vallonnés. Donc non, moi je pense qu'il faut aussi savoir savourer et découvrir chaque endroit, en fait, que ce soit une ville citadine ou une ville à taille humaine, en fait. Et quand on est dans une ville à taille humaine, il y a de tout. Il faut juste savoir les regarder et après les apprécier.
En fait, on a tendance à aller vers la facilité, à aller vers les grandes villes, parce qu'on sait qu'elles, forcément, c'est visible à l'œil nu ce qu'elles offrent. Et rarement vers ces petites villes où finalement, c'est quand on les approche, elles se livrent à nous.
Exactement. Il faut être curieux.
Il faut être curieux. Ouais. Alors justement, Nabila, le fait d'avoir changé de continent, de pays, est-ce que ça a un impact sur le couple ?
Oh, bien sûr. Moi, il faut savoir que moi, on est un couple mixte. Ah. Et donc, forcément, hein, donc il y a un impact. Après, c'est un choix quand on est un couple, le choix, il doit être décidé à deux et mené à deux. Que dans le positif et dans le moins agréable. Mais en soi, c'est sûr, moi, ça, en fait, pour être honnête avec vous, moi, c'est moi la première qui était un peu, comment dire, déstabilisée par le changement de continent. Je pense qu'aussi le fait que j'étais enceinte avec un enfant, j'étais diabétique gestationnelle à l'époque, enfin bref, j'avais des petits soucis de santé qui ont fait que je me suis posé plus qu'une question en disant, mon Dieu, est-ce que des fois, parce qu'on peut aussi douter de ses choix.
Bien sûr. Et comment
on est toujours dans une phase de questionnement existentiel. Ouais, mais c'est surtout à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais le bon choix par rapport à un enfant à venir, par rapport à mon état de santé. Mais à vrai dire, c'est juste des moments de doute qui peuvent nous passer par l'esprit. Et après, faut revenir à l'essentiel. Moi, j'ai appris, en plus par rapport au passage de la Covid, j'avoue, pour être honnête, moi, je me livre à vous comme si je me livre à une amie. Hein. Donc, j'ai fait aussi une petite analyse. Je me suis dit, comment je peux aussi savoir mieux m'accepter avec mes schémas, avec mes choix. Et en fait, le fait de faire aussi appel à des professionnels et d'aider à faire ses choix. Et c'est là où je me suis dit, bon, Nabila, tu te poses, tu prends un stylo, comme on dit, et tu fais pour chaque décision. Et ça, je remercierai jamais la personne. Elle me dit, pour chaque décision de vie que tu dois prendre, peu à qu'elle soit importante ou pas, faut faire le plus, le pour et le contre, le pourquoi. Essayer toujours de balancer. Parce qu'elle m'a dit, un choix, c'est forcément derrière, il y a un abondant de quelque chose.
Donc, forcément.
Faire le bon choix, il faut balancer et c'est là où tu peux continuer et tu peux avancer.
Oui, absolument. Je vous remercie beaucoup pour cette confiance, justement. Vous l'avez répété à plusieurs reprises. Je vous avais dit à plusieurs reprises, je me confie à vous comme à une amie. C'est vraiment ça l'objectif et c'est l'âme de ce rendez-vous, c'est de discuter comme avec une amie. Justement, quand j'approche des femmes, elles me disent « Oui, mais est-ce qu'on prépare ?» Je dis « Non, on discute comme des amis. » C'est vraiment ça, et merci vraiment de l'avoir traduit. Et par rapport à cette histoire de doute, et de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» etc. Et en fait, dernièrement, je suis tombée sur une explication et qui me semble rationnelle et réconfortante, c'est qu'en fait, tout changement, même quand on l'a choisi, mais tout événement, quand on l'a choisi, forcément amène un changement. Et tout changement, neurobiologiquement, déclenche en nous un effet de stress.
Complètement.
Et cet effet de stress, pour qu'il puisse se diluer, il doit passer par des phases, ce qu'on appelle les phases de deuil. C'est un cycle de deuil, en fait.
Exactement.
Et c'est ce cycle de deuil qu'on fait au fond de nous, où on a la première phase qui est la résistance, la révolution, la tristesse, et après l'acceptation. Et en fait, ces phases-là, bien sûr, elles ne sont pas séparées, elles ne sont pas visiblement séparées quand on les ressent, mais forcément, on doit passer par ces phases-là pour se sentir mieux. Et la négociation avec soi, c'est de se dire, ben finalement, j'ai pris ce choix, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit.
Exactement.
Et ça m'a fait du bien de tomber sur ça. Je veux dire, c'est normal d'avoir peur du changement, c'est normal d'avoir peur d'une décision, c'est normal. Voilà, c'est humain, c'est neurobiologique.
Complètement. Et en fait, même ces phases, comme vous l'avez si bien expliqué, ces phases d'acceptation qui amènent à mûrir son choix, ils peuvent être exacerbés par son environnement. Et à titre d'exemple, moi, à l'époque, quand j'étais aussi enceinte, j'avais une situation plus que confortable en France avec mon mari. Donc, ma mère, elle me disait, donc, une mère, c'est là le en miroir, c'est la confiance. Et elle me dit, mais Nabila, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce choix-là? Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais mon choix qui était décidé, mais comme vous l'avez expliqué, on passe par des moments de doute. Et c'est là où j'avais comme la voix de ma mère. Non, t'aurais pas dû venir.
Ouais.
Et en fait, ça exacerbe justement ce processus. Mais en soi, il faut le mener et l'accepter. C'est aussi l'acceptation de ces décisions et de ces phases-là, complètement.
L'accepter et se dire, si je l'ai choisi la première fois, si j'ai fait ce choix, c'est qu'il y avait une raison. Revenir à cette source, en fait. Remonter le processus. Qu'est-ce qui a fait la première fois qu'on a choisi d'aller vers ça, vers cette voie-là? Alors, si c'est possible, est-ce qu'on peut parler aussi du diabète gestationnel pendant la grossesse, parce que ça touche aussi beaucoup de femmes? Vous êtes jeune et pourtant vous avez souffert de ça. Souvent on associe les risques élevés de diabète gestationnel pour les grosses après 40 ans, après 35-40 ans. Ce n'était pas forcément votre cas. Vous l'avez eu même pendant la première grossesse?
Alors même pendant la première grossesse, j'ai eu mon enfant à 22 ans si je me rappelle bien. Et je faisais du diabète gestationnel insuliné. Donc, à l'époque, je faisais 6 piqûres par jour. Et en fait, comme vous l'avez bien dit, ça peut toucher à n'importe quel âge. Après, je pense aussi qu'il y a le terrain héréditaire qui rentre en jeu. Et oui, en fait, on apprend à vivre avec. Il faut faire un certain choix, faire attention aussi à sa façon de s'alimenter. Mais en fait, à vrai dire, j'ai mieux géré lors de la deuxième grossesse. Avec une meilleure suivi, Dieu merci, comme on dit, j'ai pu éviter les piqûres. Donc ça, c'est en soi, c'était pour moi un exploit.
Et vous avez anticipé, en fait, cette fois-ci?
Oui, j'ai anticipé via le fait de faire attention à sa nourriture, de baisser la consommation de certains aliments, comme le pain, de plus sucrer du tout. Donc c'est une hygiène de vie qui doit nous accompagner. Et surtout, j'ai gardé en tête que le médecin, il m'a dit que à partir de 40 ans, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai bientôt 40 ans, il m'a dit qu'il faut faire très attention à son mode de vie et son alimentation. Toujours une activité sportive
Alors, quand on a ce genre de pathologie pendant une grossesse, est-ce que, j'imagine, qu'il y a beaucoup de stress, on a peur pour son futur bébé?
Bien sûr, c'est au-delà d'une peur, c'est aussi, comment vous expliquer ça?
Une responsabilité.
La peur de transmettre ça à son enfant.
Oui.
Et c'est aussi une culpabilité qu'on peut porter en soi, qui en soi absurde. Hein, c'est, c'est, on n'y peut rien, on ne l'a pas choisi. Quand on enfante, c'est, on veut protéger son enfant, mais des fois, là, un peu notre cerveau peut nous amener à avoir ce genre d'idée. Mais c'est une peur aussi qui peut avoir, qui peut sauver des vies. Parce qu'en effet, je l'ai même vécu avec mon propre enfant, le premier, où il était hospitalisé pendant une dizaine de jours. Donc, oui.
À cause de ça ?
Oui, tout à fait.
Après l'accouchement ?
Après l'accouchement, parce qu'il y avait une paroi du cœur qui s'épaississait et donc qui était un peu critique pour lui.
Mais là, il va bien.
Il va très, très bien.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, Jandabila Bouhel, justement, cette expérience, maintenant, ça fait quoi ? Ça fait un peu plus de 6 ans que vous êtes, que vous vivez cette expérience arganienne ?
Oui, ça fait 6 ans. Et il faut savoir que dès la première année, alhamdoulilah, comme on dit, on a choisi d'exporter et de valoriser un produit made in Morocco. Donc, il faut savoir que dès le démarrage jusqu'à l'heure actuelle, on est, comme je vous ai dit au début, on est une société engagée avec des vraies valeurs. Parce que c'est vrai que des fois, on est amené à comparer entre coopératives, sociétés. Alors, pour moi, il y a une complémentarité qui est là. Du moment qu'on fait les bons choix et qu'on a en nous une conscience humaine et professionnelle, on peut évoluer bien. Et Dieu merci, depuis le début, on est une équipe de personnes, de 6 personnes, et notre activité, elle génère un travail, une source de revenus pérenne pour 200 femmes. Donc ça, en soi, c'est quand je me rappelle que ma mère, elle me disait, mais non, Nabila, t'as pas fait le bon choix, mais maintenant, elle est très, très fière. Et au fond de moi, j'ai comme une émotion, parce que je me dis, bon sang, quand je me rappelle de ça et je vois le parcours, que pour moi, je ne fais que débuter, hein. Mais je me dis, parce que on a des ambitions qui sont au-delà de juste exporter un produit, c'est de faire rayonner une marque made in Morocco, born in Morocco, au grand international. Donc, je me dis, pourquoi pas aller sur les mêmes, aller concurrencer des marques sans les citer, qui sont connues mondialement et qui mettent peut-être un chouï, comme on dit, d'argan.
Oui.
C'est marqué partout huile d'argan. Donc, je me dis, allez, tant que j'ai la volonté de pousser les choses, pourquoi pas.
Alors, pour finir, toute cette expérience,
oui.
Tout ce parcours-là, il vous a appris quoi de la femme que vous êtes aujourd'hui ?
Il a pris beaucoup de courage. Beaucoup de, je dirais pas de sacrifice, beaucoup de choix et beaucoup de détermination, et surtout ce choix-là de vie, il m'a appris sur moi-même et il a fait que de moi la femme que je suis. Pour tout vous dire, ça m'a apaisée avec moi-même. Le fait aussi que même cette année, je représente le Maroc dans le programme Women in Africa, c'est pour moi, quand je l'ai entendu, il faut savoir que c'est 54 pays, plus de 7500 candidatures, et quand tu entends ton prénom et le fruit de ton travail qui est reconnu sur l'échelle d'un continent entier, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais en même temps, je suis pensant, Nabila, eh bien, tu t'es pas trompée. Donc, pour vous dire, voilà. En effet, il faut croire en soi. Et il faut aller de l'avant et ne jamais baisser les bras. Donc, ça m'a appris de mieux me connaître. Exactement, si je peux résumer.
De mieux vous savourer.
Exactement.
Nabila Bouhel, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci infiniment pour votre confiance et merci de m'avoir considérée comme votre amie à laquelle vous racontiez ce parcours de vie.
Merci beaucoup, merci à vous, et au plaisir aussi de savoir que toutes les femmes maintenant, les femmes marocaines, il faut sortir un peu de ces carcans et dire « ben non, je ne veux pas y arriver » pour X raisons, pour ces chemins de vie et ces schémas de vie. Il faut toujours avoir le courage d'y aller et d'être acteur de son avenir. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager un petit peu de mon parcours. Et au plaisir de vous avoir de nouveau, chère Yasmine.
Merci beaucoup, Nabila. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.